plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Nous c'est sereine, nous fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre de velours, ça part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang.
Bonjour, vous écoutez le 8e numéro de What the F podcast présenté par Fania, moi. Bienvenue en 2020.
Bah, écoutez, je pense que ça n'a absolument aucun sens. Honnêtement, accuser le macronisme de racisme, je crois que c'est un non-sens.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous montrez vous-même?
Bah, je me montre moi-même parce que, pardon, hein, dans le gouvernement, vous avez eu Mounir Majoubi, vous avez Cédrico, vous avez Sibeth Ndiaye. Pardon, c'est ridicule de dire que le macronisme... Je veux dire, il y a plus de députés noirs parce qu'il y a eu un élan de renouvellement important à l'Assemblée nationale, porté notamment par La République En Marche. Je dis pas que les autres partis font pas des efforts, mais honnêtement, c'est un non-sens de dire ça.
C'était Dilemme de Luz and the Yakuza, suivi d'un extrait de Sibeth Ndiaye sur le plateau de BFM TV, qui nous expliquait pourquoi le macronisme ne pouvait, ne saurait être accusé de quelconque racisme au vu de sa personne et de sa position. Bien que c'est l'air un peu risible, cet argument, au vu de ce gouvernement pour lequel elle est porte-parole, c'est une idée qui est pourtant défendue dans des spectres politiques qui se veulent progressistes et voire même qui se pensent radicaux. Bref, aujourd'hui on va parler de minoritaires TM et des réparations, deux sujets qui sont liés au numéro que j'avais fait sur... les alliés sur les privilèges et l'intersectionnalité, je crois. Voilà, c'est ça. Comme vous avez vu, le podcast se spécialise un peu pour débusquer, parce qu'il y a plein de podcasts, de contenus, de blogs, etc., qui font plein de trucs extraordinaires et que ça ne sert à rien d'ajouter sur quand les gens ils font des trucs top d'analyse. Donc, moi, je me suis un peu spécialisée dans le bancalisme. Donc, voilà. Le podcast, maintenant, c'est sa ligne éditoriale, c'est d'expliquer comment des concepts soient politisés, soit des choses sont extrêmement bancales. Bienvenue aujourd'hui. Alors, les minoritaires TM. Donc, qu'est-ce que je veux dire par minoritaires TM? TM, c'est pour trending mark, c'est ce qu'on voit à côté des marques comme Pepsi, Coca-Cola, c'est-à-dire c'est marque déposée en fait. Donc minoritaire TM, pour moi c'est des personnes, de toute façon moi je parle de ce que je connais, principalement je connais les Noirs, donc voilà, donc on va dire ce sont les Noirs qui sont spécialistes à être minoritaires. C'est-à-dire que c'est quoi spécialiste à être minoritaire? C'est que concrètement on vit dans l'Hexagone, en France, en Occident, on est minoritaire, mais se spécialiser en étant minoritaire, c'est à la fois avoir conscience du fait qu'on est minoritaire et d'avoir au moins une vague idée de pourquoi on est minoritaire, mais pas seulement numériquement, mais socialement et politiquement et économiquement, et pourtant se spécialiser à être dans des espaces, être the minoritaire. Donc après, il y a un aspect dedans qui est un aspect pour moi, voilà, ça c'est les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ça c'est l'aspect que la plupart d'entre vous, surtout ceux qui sont, si vous n'êtes pas militants, si vous n'êtes pas dans des organisations politiques, etc., il y a un profil que vous devez connaître quand même. Le profil que vous devez connaître quand même, c'est une personne noire qui traîne donc ses amis, ses machins, etc., c'est que des blancs, et à chaque fois, c'est genre se tape des délires de faire la Malcolm X. Donc ça veut dire que les endroits de socialisation, et là je ne veux pas parler dans des cas genre t'es dans une ville, il n'y a que des blancs, voilà, on va prendre l'exemple où l'endroit il y a plus de noirs, l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, franchement, si tu ne trouves pas des noirs avec qui traîner, c'est difficile, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc voilà, on va dire, t'es en Île-de-France, ou t'es à Marseille, ou tout machin, etc. Donc t'as des gens, voilà, ils font leurs études, ils vont en école, de commerce, de journalisme, whatever. En plus, c'est vraiment un type sociologique très, très précis. C'est des noirs qui ont accès à l'enseignement supérieur, qui sont dans l'enseignement supérieur, et qui sont, voilà, dans des catégories, tu vois, ils ont pas... Ils viennent d'entrer dans la classe moyenne, ou des trucs, profession intellectuelle, ou managériale, etc. Donc... tous les gens avec qui ils socialisent, etc., c'est des blancs, pas des blancs militants. Là, je parle pas, c'est pas le milieu militant, c'est genre des blancs, machin, etc., qui sont machin. Et puis, c'est leurs potes, et puis voilà, mais c'est des blancs qui écoutent parfois des. Qui lisent des trucs, qui connaissent Bell Hooks, et ils ont lu Toni Morrison, nanana. Et tu vois, ces gens, tu peux les voir, enfin, moi, je les connais surtout de loin. Parce que moi, j'ai fait des études en sciences politiques, en sociologie. J'ai des gens avec qui j'étais dans l'enseignement supérieur. C'est mes potes, c'est pas des militants. On n'est pas d'accord politiquement. On est juste potes. C'est pas mes grands amis, mais voilà, on est potes, on se tape des barres, etc. Et il arrive souvent, bon, ils savent tous ce que je fais, ce que je dis, etc. Et voilà, donc je dis, on n'en parle pas parce que j'ai pas envie de discuter de ça et que voilà. Donc ça arrive. Disons que je suis dans une soirée Y, dans l'appartement d'un de ses potes, qu'on va appeler ce pote, qu'est-ce qu'il y a souvent qui font des écoles, des études en sciences politiques, on va appeler ce pote Stanislas, voilà, c'est un pote Stanislas, il est de droite mais il ne le sait pas, mais on se tape des bonnes barres et il est fan de Game of Thrones, donc on parle de ça et on se contient à ça. Donc il fait une soirée, il y a plein de gens dans son appart et tout, machin, etc. Donc on rigole, on fait une soirée, tout machin, tout ça, tout le monde s'arrange pour... Bon, moi, je parle pas de mes convictions, je suis juste là pour me détendre et j'ai mangé avant parce que les soirées Stanislas, il y a rarement à manger, c'est rarement bon. Donc, il y a des gens que j'aime bien voir, on se tape des bars et tout. Et là, il y a une personne, une personne noire, qui ne milite pas, qui est dans ces espaces, etc., mais qui n'est pas militant, etc., mais tout le temps, qui poste des trucs, surtout en anglais, surtout machin, etc., sur les noirs et tout, woke et tout ça. Donc, dans cette soirée qui est, voilà, chill, et bien là, elle lance un débat, voilà, la diversité, la représentation des noirs et l'esclavage, etc. Au plein milieu d'une soirée, il est 23h à Parmentier. Donc voilà, et tu vois, moi je vois cette personne faire ce display, comme disent les Américains, cette démonstration de militantisme dans une soirée à 23h au métro Parmentier. Et tu vois, je regarde comme ça, etc., parce que je me sens pas concernée, moi je me sens pas concernée, et à un moment, elle me regarde, etc., je me sens pas concernée par ce débat, parce que j'ai des espaces où je milite, et des espaces où je sais où c'est important. Là, il est 23h d'une soirée à Parmentier. La 80%, ils sont tous bourrés. Ils sont tous bourrés. Je vais pas faire, je sais pas, à Satan Chakour pour le plaisir de faire la meuf qui a des convictions, parce que j'ai d'autres endroits où ces convictions et ces pratiques, elles sont mises en mouvement. Donc voilà. Donc ça, c'est dans la sphère privée. Vous devez toujours connaître tout connaître quelqu'un comme ça. À un moment que tu ne sais pas pourquoi, tout le temps, dans les endroits où, franchement, il n'y a pas d'enjeu, tu vois. Il n'y a pas d'enjeu. Tu as des grandes performances de militantisme, de wokisme, de ça, mais qui est ancré dans aucune lutte concrète. Juste là, c'est le moment pour faire le ouf, tu vois. Alors qu'on est dans cette soirée, tous les gens dans la soirée savent ce que je fais, on allait faire un concert, mais ils savent exactement ce que j'ai fait, ils savent le camp d'été des colonies, ils savent ce que je suis dans moi, ils savent tout, ils savent tout. Donc ils savent, comme on se sait, ils disent pas ce qu'ils pensent, moi je dis pas ce que je pense de leurs grands-parents, etc. On passe juste une bonne soirée parce que on peut pas, voilà, on peut pas vivre dans la friction, quotidienne et qu'il y a des espaces qui servent à quelque chose et d'autres espaces qui ne servent pas à ça. Donc ça, c'est dans, dans la partie privée. Donc là, c'est, dans cette partie-là, c'est super drôle. T'es là, tu fais « Ah, ok, d'accord. Très bien. » Mais la partie où ça pose plus de problèmes et où c'est beaucoup moins drôle, c'est quand c'est dans le militantisme. Et là, on a des personnes qui sont minoritaires, non pas dans ce cadre privé que je dis qui est un peu drôle, qui permet de raconter des bonnes histoires, mais dans des organisations majoritairement blanches, majoritairement noires, mais majoritairement blanches, de gauche, etc. Ils sont minoritaires dans ces organisations, donc ces organisations qui sont connues pour leur racisme ouvert ou sous-entendu, sexiste, tout. Ils sont, voilà, c'est des organisations politiques, donc il y a tout. Racisme, sexiste, tout, il y a tout. Qui sont dedans, mais qui restent dans ces organisations pour les faire changer, pour bouger les lignes, nanana. Mais qui viennent dans des espaces créés par des organisations noires, centrées sur les questions noires, pour venir piocher, prendre la température de l'eau, de ce qu'on dit, ce qui se dit, ce qui se fait, les débats, l'analyse, parce que les espaces qu'on crée, les espaces créés par des organisations majoritairement noires ou afroféministes, ou, etc., ont des niveaux d'analyse beaucoup, 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 mais un milliard de fois plus pointus, rigoureux, complexes, sur et les questions raciales, de colonialisme, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est pas au plein milieu d'un groupe, j'ai des amis zadistes, donc désolé, mais j'aime trop vous prendre un exemple, de zadistes, qu'on va voir ces analyses. Donc c'est de venir dans ces événements, dans ces espaces, etc., pour voir, pour prendre la température, voir les trucs bien qui se font, ah ça c'est bien, ça c'est intéressant, poser plein de questions, et essayer d'aller les implémenter, c'est-à-dire le travail qu'on fait dans des organisations qui ont beaucoup moins de moyens, que ce soit humains, financiers, qui sont beaucoup plus criminalisés, surveillés, etc., pour aller essayer de les implémenter, avec un grand échec, parce que les organisations blanches dans lesquelles elles sont, elles veulent pas ça, elles veulent juste tu vois, de la diversité, mais elles veulent pas vraiment penser ces questions, dans leurs organisations blanches. Donc ça c'est un problème éthique c'est vraiment compliqué. Donc ça c'est le premier problème éthique que ça pose. Le deuxième problème éthique, c'est quand ces personnes qui sont dans ces organisations monopolisent l'espace public pour porter là je parle des personnes et à la fois qui sont dans des organisations blanches ou des personnes qui sont dans aucune organisation mais qui sont plus dans des espaces blancs, monopolisent l'espace et médiatique de pensée, de production, etc., pour mettre en vue des agendas de personnes dans des espaces blancs. Qu'est-ce que je dis? C'est quoi les agendas de personnes dans les espaces blancs? Les agendas de personnes dans les espaces blancs, c'est toutes les agendas sur des questions politiques, je mets des quotes sur les questions politiques, je mets des guillemets, qui sert l'avancement de la classe moyenne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire les questions de représentativité, de visibilité et de représentativité, visibilité et d'alliés et de machin, etc. Donc, des questions comme ça, donc des questions qui sont très fit avec tout ce qui est à parler d'identité, mais d'identité non reliée à les conditions matérielles d'existence, à juste on demande à ce que nos identités soient respectées et c'est quoi les revendications politiques, ça change quoi matériellement au niveau de l'appropriation des richesses, du pouvoir, etc. Donc les gens, ils aiment bien se tromper, croire que la représentation, c'est le pouvoir, alors que non, on peut être représenté et avoir aucun pouvoir. Et on peut ne pas être représenté, ne pas être visible du tout et avoir beaucoup de pouvoir. Donc voilà, c'est pas corrélé. C'est pas un lien de causalité, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de personnes blanches qui sont représentées, visibles, etc., de la représentation, mais le fait qu'on peut être dans un monde où il y a une représentation égalitaire et que ça ne veut pas dire que les conditions matérielles ont changé, les rapports antagonistes entre les groupes en fonction de la race, du genre ou de la classe aient évolué. Donc, on a ça, un premier problème éthique de venir dans des espaces créés par des organisations majoritairement noires qui ont beaucoup moins de moyens pour venir glaner ce qu'il fait pour aller les implémenter dans des organisations blanches. Deuxième problème éthique, prendre des choses qui sont pensées et les dépolitiser ou les rendre très inopérantes dans le fait où on a enlevé tout le côté radical, révolutionnaire pour juste garder la surface des choses et pour le faire qu'il soit plus digérable médiatiquement, etc. Et ensuite, on a l'autre problème et tout, mais ça c'est... c'est pas un problème, mais c'est une concrétisation, c'est que ces personnes, elles peuvent passer 15 ans, 20 ans dans des organisations qui bougent pas d'une ligne. Après, ils vont claquer la porte en disant « Ah, je me casse, il y a trop de racisme, etc. C'est plus possible. » Donc, voilà. Mais quand vous voyez leur parcours, elles n'ont jamais été dans une organisation noire alors qu'il y en avait dedans. Et quand on leur demande pourquoi, là, c'est « Ah non, mais telle organisation, ils sont trop ceci, ils sont trop cela. » Alors qu'ils étaient dans des organisations qui, en plus d'avoir tous les défauts qu'ils reprochent aux organisations noires, étaient racistes et négrophobes. Donc, la question, c'était pas, en vérité, si les gens, ils ont un truc réflexif envers pourquoi, quand c'est des organisations noires, là, ils ont leurs critères de pourquoi ils peuvent rejoindre ou pas, ils dépassent le plafond. Alors que pour les organisations blanches bancales où il y a des scandales d'agression sexuelle, d'homophobie, de racisme, de colonialisme, de soutien à des guerres, c'est-à-dire vraiment des choses matérielles, c'est-à-dire des organisations qui ont à des moments voté des lois qui ont appauvri, mené à la mort de personnes, vraiment des choses qui ont plus d'impact matériel qu'une organisation qui à des positions, comme on dit, la problématique, mais qui a un impact sur personne. Donc ces personnes, on se rend compte de ça, et on voit que la question, en fait, qu'ils n'ont pas réglée avec eux-mêmes, et la réalité, c'est qu'ils préfèrent être minoritaires chez ce qu'ils voient comme les gagnants, ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les blancs de la gauche qui ont le pouvoir, enfin, dans tout le spectre politique, plutôt qu'essayer d'être gagnant avec ceux qui sont vus comme des perdants, c'est-à-dire les Noirs. Donc voilà, ça c'est mon humble avis. Et je pense qu'on doit tous... En fait, je pense qu'il y a un questionnement qu'on doit avoir en tant que Noirs et en tant que personnes qui sont engagées de pourquoi... J'ai un malaise d'être dans une organisation ou dans des espaces où il n'y a que des Noirs. Voilà. Donc après, on peut rationaliser, oui, parce que je pense, machin, etc., la diversité, la France, l'inclusion, etc. Mais juste dire pourquoi, quand ça vient à ce sujet-là, il y a plein de raisons. Et être honnête avec soi-même, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ces organisations, non. Moi, je pense que juste que qu'on fait des choix... Il faut être honnête avec les raisons de choix et dire qu'on va essayer de gagner avec ceux qui ont l'air de gagner, bien que, bon, les gens qui sont dans la gauche, et surtout dans la gauche radicale, sont dans des trucs où ils ne font pas 2%. Donc, voilà, même ceux qui sont allés au PS, hein, vraiment, pour finir de la sorte, c'est moche. Donc voilà, donc ça c'est une question et ça se pose au niveau global, genre pourquoi Angela Davis elle a préféré le Parti communiste au Black Panther Party. Donc voilà pour des questions comme ça de Aimé Césaire et tout le temps qu'il a fait au Parti communiste et comment il a été pas convaincu pour intégrer des groupes indépendantistes. Il faut interroger tout ça. Et je parle des organisations qui sont blanches ou d'autres organisations qui ne sont pas que blanches. Donc voilà. C'était ce que j'avais à dire sur ça et sur les minoritaires TM. Donc, si vous les croisez dans vos sphères privées à faire les Assata Shakur / Malcolm X / les Sœurs Nardal en plein milieu d'un endroit qui est pas enfin fait pour ça, qui est juste un endroit où il n'y a pas d'enjeu politique alors qu'ils ne sont pas inclus, vous penserez à ça. Et si vous êtes dans une organisation noire et que vous voyez souvent des gens qui ne sont pas dans votre organisation, qui sont dans des organisations majoritairement blanches, qui ont plus de moyens que vous, d'accès, etc., qui viennent tout le temps vous demander plein de trucs. Ah oui, et pour ça, qu'est-ce que vous pensez de ça, et qu'est-ce que ça, pour ensuite aller les implémenter dans leur organisation, ben, vous poserez aussi des questions. C'est important de poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus leur parler, mais juste poser des questions, c'est important. Alors, le deuxième sujet, c'est sur les réparations, mais pas sur les réparations en tant que « Ah, oh, qu'est-ce que les réparations ?» Bon, ça, c'est pas... Les réparations, c'est une demande politique pour surtout les peuples qui ont été victimes de l'esclavage européen transatlantique et du colonialisme, et ça a débuté sur les peuples afro descendants dans la Caraïbe et les Amériques qui demandaient des réparations aux États qui ont mis en place l'esclavage, les Afro-Américains aussi à l'État états-unien, mais aussi en France avec des mouvements, le mouvement qui s'appelle le mouvement international contre les réparations, où il y a beaucoup de personnes de la Guadeloupe et de la Martinique dedans, qui ont déposé des recours devant l'État pour la restitution des terres, pour avoir, pour que le caractère imprescriptible du crime contre l'humanité qu'est l'esclavage soit reconnu. Et que cette Zumba de « oui, c'est un crime, mais il n'y a pas de coupable », parce que la loi Taubira, ce qu'elle inscrit dans la loi Taubira que les gens font « oh mon Dieu, Christiane Taubira », c'est que c'est une loi mémorielle. C'est-à-dire c'est une loi qui entérine le fait qu'il n'y aura pas de réparation, donc c'est super. La mémoire, ça tient chaud. Donc c'est une loi purement mémorielle et qui n'est pas sur les réparations, alors qu'il y a des États autonomes, indépendants, comme Haïti, Trinidad, Jamaïque ou d'autres États, qui demandent, ou d'autres groupes à l'intérieur des États, comme des groupes afro-américains ou afro-colombiens ou au Venezuela, qui demandent des réparations à l'État, c'est-à-dire des réparations au niveau de l'État pour arrêter cette chose de crime sans coupable. Et on peut voir aussi, par exemple, que, en prenant l'exemple qui est le plus flagrant, c'est que quand il y a eu l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe et en Martinique, les esclavagistes ont été dédommagés. C'est-à-dire qu'ils ont gagné leur terre, mais ils ont été dédommagés par la Caisse des dépôts. C'est-à-dire qu'on leur disait, ben, comme les personnes mises en esclavage étaient considérées comme des biens meubles, ben, ils avaient un prix. Donc on leur disait, ah ben voilà, c'est la fin de l'esclavage, donc là maintenant vous n'avez plus... trois hommes noirs, cinq femmes noires, deux enfants, ça vaut autant d'argent, ben on va vous dédommager. Donc il y a vraiment un crime horrible du fait qu'ils sont dédommagés sur la valeur qu'ils ont mise sur des êtres humains. Ces êtres humains se retrouvent à n'avoir rien du tout et à devoir vendre leur force de travail aux anciens esclavagistes pour se payer de quoi vivre dans le système qui s'installera peu à peu pour devenir le capitalisme, plus le capitalisme néolibéral et avec ce qu'on appelle la pauvreté générationnelle, c'est-à-dire que le manque d'argent, de terre, etc., se transmet de génération en génération avec une très très faible mobilité sociale. Et de même avec l'accaparement des richesses par les béquets, avec une très 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 très, très faible portion d'eux qui tombe qui perdent les avantages qu'ils ont acquis depuis l'abolition de l'esclavage et pendant l'esclavage sur le travail, l'exploitation et le crime abominable contre notre peuple. Donc ça c'est pour ce que c'est et en quoi politiquement ben, c'est extrêmement fort pour des États, je pense à des États comme Haïti, de demander des réparations dans le cas d'Haïti, c'est cette rançon coloniale que la France a imposée à Haïti en imposant un embargo, oh là là j'ai du mal, très très difficile pour une petite île, en faisant en sorte que les États-Unis, qui nouveau pays, leur suivent l'embargo aussi. Donc Haïti a dû payer cette rançon qui est énorme et qui a freiné ce nouveau État-nation qui était tout neuf, mais c'est des réparations en termes historiques, en termes sociaux, en termes de transfert de compétences, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus large que juste signer des chèques. Et ça, c'est une question vraiment importante. C'est une question de, en fait, il y a un crime, il faut être dédommagé, on réfléchit sur quoi, comment, etc., sur les moyens, et je pense aussi aux pays qui ont subi le colonialisme, sur ça. Et là, on voit que cette lutte qui est politique, qui a plein de couches différentes qui peuvent être mobilisées, sur lesquelles on peut ne pas être d'accord. Par exemple, moi, je pense que les autorités internationales et même les autorités françaises ne vont jamais donner des réparations parce que c'est dans leur nature même de vivre sur l'exploitation. Donc la seule façon d'avoir ces réparations, c'est de devenir assez autonome politiquement, économiquement, socialement en tant qu'État et de leur imposer ces réparations de la même façon, parce que on est assez fort dans un groupe et pas comme État isolé, mais dans un groupe d'États noirs, par exemple. C'est pour ça que le panafricanisme est assez intéressant, pour que ce soit pas juste des revendications quand eux ils seront d'accord, mais des prérequis à des rapports entre États. Et ça, ce genre de choses, ben voilà, les gens ils sont là en mode oh c'est réparation, quand quelqu'un te paye un dîner machin etc, t'es pas, moi je dis non, ça ça s'appelle la dépolitisation, l'individualisation de questions extrêmement importantes, et de questions extrêmement importantes non pas spécifiquement pour les noirs vivant en Occident, mais pour tous les noirs vivant dans des pays de noirs. C'est-à-dire qu'en termes structurels, qu'un État peut avoir des réparations qui sont importantes, ce que ça peut faire en amélioration de la vie des personnes dans des États qui manquent d'infrastructures, c'est beaucoup plus important que de dévoyer politiquement un terme pour avoir des dîners, des machins, etc. Alors qu'il y a plein de trucs qu'on peut mobiliser pour que des gens qui ont plus de moyens te payent des trucs. C'est-à-dire que juste le fait de dire, t'as plus de moyens, tu peux me payer des trucs, ça devrait être suffisant sans avoir besoin de mobiliser des luttes ou des concepts politiques. Et c'est ça toujours le problème, c'est qu'on peut faire des trucs sans en faire une guerre politique. C'est-à-dire qu'on peut demander à des gens, surtout aux mecs, là, ce qu'on appelle le manger gratuit, là, voilà, tu as plus de moyens parce que bon, systémiquement, c'est plus de moyens, mais c'est voilà, et donc payer parce que tu as plus de moyens, c'est tout. On va se quitter avec un morceau d'un groupe de compas haïtien, enfin c'est un pléonasme, un groupe de compas bien sûr haïtien, qui s'appelle Musique Musique, et le morceau s'appelle Bébé. Mais avant ça, un extrait du livre de Moissy, du livre Afrofemme, d'un extrait du chapitre 1 et la sous-partie « Nous avons choisi l'afroféminisme ». À très vite. « Nous avons choisi l'afroféminisme pour traduire politiquement nos révoltes en tant que femmes noires. Révolte que nous voulons transformer en révolution pour un changement radical de système. Un système de justice sociale pour toutes, sans racisme, débarrassé de la domination masculine et du capitalisme. Nous faisons le choix de la lutte collective, de l'organisation politique autonome et de la libération comme horizon. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des quartiers populaires, avec des parents qui ont occupé les emplois les plus pénibles et sous-payés. Nous avons fait la queue à la préfecture pour les voir être humiliés par l'administration française, infantilisés par nos instits, fliqués par les services sociaux. Mais nous les avons vus debout, déterminés, faire de leur mieux et ne jamais renoncer à la conviction que ce sacrifice était pour nous. Pour répondre aux mots de Frantz Fanon, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Nous avons choisi de la remplir. Nous portons l'héritage de nos aînés qui ont rêvé de nous voir libres, qui ont sacrifié leur vie pour ce rêve de justice. Nous portons la fierté de nos peuples, nos cultures et nos histoires dans nos luttes. Ce chemin tracé dans nos luttes, nous avons choisi de le prendre, de continuer le sentier pour nos ancêtres, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous avons choisi l'afroféminisme pour lutter entre sistas, mais aussi apprendre à nous aimer dans la sororité. Nous pensons la solidarité comme un acte politique autant que l'amour de nous-mêmes et de nos communautés. Toutes les femmes sont blanches, les hommes sont noirs, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses. Oui, nous sommes courageuses, mais nous sommes fatiguées. Fatiguées d'être exploitées, déconsidérées et humiliées par le racisme, l'hétéropatriarcat et le capitalisme. Nous sommes dépossédés de ce que nous créons et produisons par toutes les communautés non noires. Nous avons choisi l'afroféminisme pour transformer notre colère en action politique, pour lutter contre cette fatigue et ce sentiment d'impuissance. Nous avons choisi de lutter car nous choisissons la libération. Extrait de Afrofem, Moissy Collectif, aux éditions Sileps 2018.
Pour me faire comprendre que la vie n'est pas si facile, font chita pour qu'elle soit claire côté au fléral. Moi, décider sur ça, on va le faire. Ou vieux, tout vieux, une femme, si là, oublier tout ça, papa ou maman, on te parle. Sans faire d'envie, ça c'est ouais. T'en prie, frère, réfléchis bien pour pas perdre.
Sauver la vie.
Sauver la vie.